Et on va revenir ce matin sur une série de vols, de cambriolages, de dégradations à Marseille et forcément qui engendre la colère des habitants. Cédric Luciano est avec nous, initiateur du groupe citoyen Touche pas à ma rue. Marseille est 9e et 10e arrondissement. Bonjour Cédric Luciano.
Bonjour Patrick, bonjour Cécile.
Oui, alors Cédric Luciano, pourquoi vous avez lancé justement ce groupe hein, Touche pas à ma rue? Qu'est-ce que vous vivez au quotidien avec les autres habitants, notamment dans votre quartier, l'avenue Comtesse Lili Pastré, là dans le 10e arrondissement?
Alors, qu'on vit en fait, c'est on va dire des incivilités et de la casse perpétuelle en fait, depuis surtout après le confinement, après le premier confinement.
Ah bon?
Oui. Alors, il y a eu énormément de vols de véhicules. On a eu énormément de véhicules qui ont été désossés aussi, de gros cambriolages. Mais on va dire que après le premier confinement, il y a eu on va dire comment vous expliquer une grosse hausse de ces intimités.
Oui.
Donc, ce qu'on a fait, on s'est dit, on va créer un groupe WhatsApp entre voisins au départ.
Mmh.
Et donc, ça a un petit peu marché. On était une dizaine dessus, on s'est un petit peu envoyé des infos dès qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, dès qu'il y avait des choses de café ou alors des intrus dans les garages, tout ça. Jusqu'à une nuit où on a subi une vague de casse qui est très impressionnante, où on a eu plus de 35 voitures qui ont été cassées.
Oui.
Et de là, tout le monde s'est réveillé un petit peu et je me suis dit pourquoi pas créer un groupe un peu plus conséquent et faire une page Facebook.
Oui. Entre voisins, c'est ce qui se fait dans beaucoup d'endroits, évidemment, pour surveiller un petit peu les quartiers. Mais vous en avez parlé aux policiers, aux enquêteurs sur l'ensemble de la casse et puis des vols où vous dites que ça a augmenté après le premier confinement?
On en a parlé à nos élus de quartier, on en a parlé à notre maire de secteur.
Oui.
Quand j'ai créé le groupe, j'ai essayé de faire monter au maximum sur la page, dire aux gens en fait qu'ils aillent vraiment porter plainte pour faire monter les statistiques.
Oui.
Pour avoir un peu plus de moyens, parce que c'est par rapport à ces statistiques qu'on fait que peut-être qu'ils vont déployer un peu plus de policiers, ils vont déployer un peu plus de... Alors nous, ce qu'on demande vraiment dans la rue, c'est d'avoir des caméras de surveillance, hein, c'est un quartier qui est neuf.
Mm.
Il est sorti de terre il y a 12 ans et demi, et je ne vais pas vous cacher qu'il y a des gens qui ont acheté et qui déménagent, quoi.
Ouais.
Donc, on en a ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Donc, on a une triple peine, on a le Covid, on a le confinement, et le matin, quand vous allez travailler, vous avez vos vitres cassées, votre voiture désossée.
Ouais.
Voilà. Là, on a une grosse vague en début janvier, vous cassez une quinzaine de voitures.
Ouais.
Alors, les caméras de surveillance, je vais vous dire, c'est pas quelque chose qui est... En fait, pour moi, c'est ce qui va élucider peut-être le parcours qu'ils vont faire. Parce qu'en fait, moi, en prenant les témoignages, je me rends compte qu'en fait, ils sont passés chez nous, ils ont été dans des régions plus loin, dans la même nuit, et sur 3 jours, ils ont fait tout un quartier.
Ouais. Est-ce que, vous savez, ce sont des réseaux qui sont organisés? Vous en avez parlé avec les policiers, avec les élus politiques. Ce sont des réseaux à l'international qui viennent prendre des pièces détachées, par exemple, pour les revendre, ou c'est de la dégradation pour de la dégradation?
Il y a les deux. Il va y avoir des vols aléatoires où ça va être un peu peut-être des jeunes qui vont passer et qui vont trouver peut-être la porte de garage ouverte et qui vont là, vont casser des voitures. Sinon, il y a vraiment le gang organisé, c'est-à-dire qu'ils vous volent la voiture alors que vous avez un anti-vol sur le volant. Alors, ils ont des outils, hein, ils ont des outils sensibles, ils vous désossent les voitures comme des professionnels, hein, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre 4 jantes, ils doivent mettre peut-être 4 minutes parce qu'ils ont des outils sensibles. Ils sont très bien équipés.
Oui, ils sont très bien équipés.
Les élus sont au courant, on a fait des demandes même à la mairie.
Ouais.
Nous, ce qu'on demande, en fait, c'est d'avoir un peu plus de sécurité dans notre quartier, qui est neuf, qui est un peu détérioré.
Ouais.
Et voilà, donc après, on va dire que, d'après les explications de certains élus de la ville, on va dire que le problème ne vient pas forcément que des élus et de la mairie de Marseille. C'est quelque chose qui va beaucoup plus haut, qui va à l'État, parce que l'État a abandonné quand même Marseille depuis des années.
Oui, sur certains quartiers. Oui, c'est ça. Ouais.
Sur certains quartiers, c'est surtout sur la ville de Marseille, totalement.
Ouais. Merci Cédric Luciano. Donc on voulait vous entendre parce que vous avez lancé cette initiative et là il y a eu cette recrudescence hein, des cambriolages du côté de Marseille, donc dans votre quartier depuis quelques jours, et on voulait vous donner la parole donc avec votre groupe de citoyens Touche pas à ma rue.
Et puis il y a une autre forme de mobilisation, c'est dans l'Hérault cette fois-ci, où des habitants justement tentent de sauver le café du village. Et Bastien Bournol est avec nous ce matin, gérant du café de la place à Alignan-du-Vent. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, il y a cette mobilisation, ça se traduit comment? Parce que votre café est fermé depuis quand?
Depuis le 23 octobre.
Oui, depuis le 23 octobre, oui, c'est ça.
C'est ça.
Donc, il y a eu une mobilisation qui a été lancée autour de vous, parce que c'est la crise sanitaire, évidemment, qui vous a touché, foudroyé, j'allais dire.
Oui, oui, c'est ça. C'est la crise qui nous a obligés à fermer. Donc, deuxième fois, pratiquement 2 ans d'ouverture.
Oui.
Bon, c'est un peu injuste, mais bon. Et ben, nous avons des clients qui sont solidaires et qui nous ont fait une petite cagnotte pour nous soutenir, pour soutenir le café du village, pour soutenir...
Est-ce que vous touchez quand même des aides autrement, Bastien?
Oui, nous avons les aides de l'État, le Fonds de solidarité.
Ouais.
Et après, les seules aides qu'on a.
Ouais. Et c'est suffisant pour essayer de tenir quand même ou pas?
Oui, pour le moment, c'est suffisant.
Ouais.
Pour le moment, voilà.
Mais ce qui vous manque, évidemment, c'est, de, comme beaucoup, hein, de pouvoir travailler et puis d'être à travers votre café, comme dans énormément de villages, hein, de bourgs. C'est le lieu de sociabilité qui est rompu, en quelque sorte. Hein.
Ah ben, tout à fait, oui. C'est le poumon, c'est le cœur du village, c'est là où tout le monde se rejoint pour discuter de la pluie du beau temps, pour tout, quoi.
C'est
important.
Ouais. Est-ce que vous comprenez aussi que le lieu de sociabilité, pour certains, ça peut être aussi un lieu de contamination, parce que dans un bar, on n'a pas forcément le masque, on n'était pas toujours éloigné, Bastien?
Après, oui et non, parce que oui, je comprends, parce que l'alcool... n'aide pas forcément à respecter suivant les endroits, mais après nous on a une petite structure, donc après on essaye de faire respecter tous les gestes barrières tout en mettant en place les protocoles sanitaires, donc là je trouve injuste pour les petites structures, pour les après même les grosses structures peuvent arriver à faire respecter
Et Bastien, vous n'avez pas pu mettre en place une autre activité parallèle qui vous permettait d'ouvrir? Ça, c'était pas possible ou compliqué en tout cas?
Non, parce que c'est un petit village, nous sommes 1800 habitants, il y a déjà 4 autres personnes qui font de l'emporter.
Ouais.
Donc je pense pas que les gens aillent forcément acheter un plat ou commander... un plat de brasserie ou autre au café, quoi.
Donc pour l'instant, vous êtes un peu désespéré, quoi. C'est une forme de désarroi, quoi, hein, Bastien.
Voilà. Ouais. On était à l'attenteur, on est...
Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je comprends que c'est assez difficile
pour
vous.
Hein, ouais, c'est très compliqué,
compliqué de vivre cette situation, évidemment.
Surtout de ne pas voir le bout, sans échéance, c'est ça qui est compliqué.
Je rappelle que vous avez perdu déjà 60 000 euros depuis le début de la crise sanitaire, malgré les aides. Il y a eu une petite cagnotte qui a été lancée par les fidèles du café de la place à Alignan-du-Vent. C'est à une demi-heure de Béziers, hein, au nord-ouest. On croise les doigts pour vous en espérant que ça pourra rouvrir
bientôt,
retrouver de la vie. Merci.
Restez avec nous dans quelques instants. L'édito politique, c'est avec Arlette Chabot. On va revenir sur la charte des principes de l'islam de France. À tout de suite.